Le théâtre Prospero. Alors, vraiment, c'est intéressant ce qui se passe à ce théâtre de Montréal. Soucieux de rendre donc le théâtre plus accessible, Prospero propose cette saison une nouvelle tarification, qu'on dit flexible et simplifiée, basée sur la confiance. En fait, j'en avais parlé lorsque j'ai animé cette émission cet été, lorsque ça a été annoncé. Alors, pour chacun des spectacles présentés dans les deux salles, on peut choisir le tarif le mieux adapté à sa situation au moment de l'achat. Et ce, peu importe votre âge, puis on ne vous demande aucune justification. Alors, c'est vraiment pour faire en sorte que le coût du billet et le revenu ne doivent pas être des obstacles aux arts vivants. Mais pour parler de tout ça et aussi de la programmation du Prospero, parce que c'est une programmation assez intéressante et même audacieuse, comme toujours, j'ai avec moi Vincent de Repentigny, qui est le co-directeur, on dit directeur général artistique.
Co-directeur général, oui.
OK, du Théâtre Prospero. Ben justement, ben bienvenue à
Ben
l'émission.
merci, merci.
Avant de parler, je pense que j'ai pas le choix. Je suis allé voir la pièce Homicide. Hein, j'avais dit qu'on parlerait de la tarification en premier, puis je suis pas capable de me retenir. Je suis allé voir la pièce Homicide vendredi avec, entre autres, Danny Boudreau. Une pièce absolument époustouflante.
Oui, c'est un tour de force de Danny et de Christian là, sur scène. C'était quelque chose comme. Pour moi, c'est vraiment une pièce avec laquelle on avait beaucoup, quand même, d'appréhension. On se disait comment le public va réagir. C'était un
Parce que
gros parti
disons-le, parce
pris.
qu'on parle quand même de Rocco Magnotta,
Ouais, voilà.
sans le nommer dans la
Exactement.
pièce, mais c'est moi qui est journaliste,
Oui.
j'ai couvert ça au
Oui,
moment où c'est arrivé.
tout à fait.
C'est horrible et comment on en parle, c'est surprenant.
Oui, je pense que Pascal Brûlemans, qui est l'auteur, puis Nini Bélanger, qui est la metteuse en scène, ont aussi fait un gros travail d'essayer de puiser aussi à ce qui était un peu les racines aussi de ça, d'essayer de réfléchir à ce que ça laissait comme trace dans notre inconscient collectif, mais aussi toutes les qu'est-ce qui avait mené aussi collectivement. C'est tellement quelqu'un a posé quelque part ce geste-là, sans tomber dans la justification, sans tomber dans le documentaire vraiment, mais plus dans une forme d'analyse, de perception, de senti, là, tu sais, de quelqu'un qui avait un besoin d'exister médiatiquement, d'exister aussi dans son image puisse exister quelque part dans une certaine sphère. Fait que ça donne un objet qui était très troublant, mais le public a été vraiment au rendez-vous, puis on était très heureux de ça.
Troublant au point que moi, j'ai même remarqué après les applaudissements, les gens étaient silencieux
Ouais,
quand ils sortaient de
tout
la
à
salle.
fait.
Parce que on se reconnaît
Oui.
quelque part. C'est ça qui est troublant
Oui.
dans le personnage
Complètement.
incarné par Danny Boudreau, qui est donc Rocco Magnotta, sans le nommer, mais moi, je le nomme en onde ici. Mais c'est ce besoin d'être vu, hein, les photos.
Ouais.
Puis on en voit beaucoup de gens qui font ça. On est
Ouais.
tous un peu comme ça dans les
Oui, cette
médias
idée-là de
sociaux.
la mise en scène, je pense, de soi-même, elle est très, très présente dans la pièce. Puis c'est vrai que chaque soir, moi, j'avais l'impression que les gens sortaient d'un petit rituel. Tu sais, il y avait comme quelque chose du silence. Tu sais, l'après-applaudissement, le moment dans le hall d'entrée, il y avait quelque chose qui habitait les gens, là, d'une certaine façon, le soir après soir. Donc,
Puis je termine là-dessus, mais il y a une scène absolument incroyable,
Oui.
hein, entre les deux comédiens.
Oui.
Comment s'appelle le deuxième?
Christian Rangel.
Qui est mort, il fait
Oui.
le mort, mais il était
Oui.
comme un pantin.
Oui. Il devient un peu comme une espèce de scène de ventriloquie, un peu, où est-ce qu'il devient cet objet-là avec lequel interagit donc Danny. Et c'est une scène, pour moi, c'est une grande scène, là, t'sais. Faite tout en finesse aussi, t'sais, on n'est pas dans une violence démontrée, mais quelque chose qui reste avec nous, c'est sûr.
On va retourner à la
Mais oui, mais
tarification.
oui.
Parce que moi, j'ai acheté trois billets pour aller voir la pièce. J'avais des amis qui venaient avec moi, puis j'ai vu la tarification. Et puis j'avais des personnes de 65 ans et plus. On peut pas dire des personnes âgées, parce que moi, je suis proche de là aussi, puis on n'est pas âgé. Mais ça, j'ai utilisé donc cette tarification. C'est génial. Alors, parlez-nous un peu de cette tarification qu'on dit sociale, la
On
tarification
dit solidaire,
solidaire, oui.
accessible. Je pense que c'est quand même un mouvement qui existe depuis un certain temps au niveau, je dirais même international. Il y a plusieurs théâtres puis festivals qui l'ont fait. Même à Montréal, il y a certains festivals qui sont prêtés à ce jeu-là pendant la pandémie. Et l'idée est assez simple, en fait, c'est de réduire aussi le nombre de tarifs. T'sais, nous, on avait 8, 10 tarifs entre la petite salle, la grande salle. On essayait de réfléchir à certains tarifs pour certains publics. Puis on se disait, nous, on connaît beaucoup de gens autour de nous pour qui, c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question de revenus, c'est une question de moyens. Puis on avait avec Philippe Cyr, qui je co-dirige, on se disait, le but, c'est que les gens prennent des risques artistiques, donc pas un risque financier. Comment on fait pour que les gens viennent côtoyer le théâtre, puis que ça soit assez flexible pour que, peu importe le moment, ce qu'ils ont comme moyen à ce moment-là, ils soient en mesure de voir les œuvres, que ce soit pas un frein. Donc, est arrivée cette idée-là qui a été aussi testée au Carrefour International de Théâtre à Québec, à la nouvelle scène. Puis je le nomme parce que c'est vraiment, on sent que c'est une bonne idée, puis que ça doit être récupéré. C'est-à-dire que je pense que ce genre d'idée-là doit aussi continuer à faire son chemin. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on réduit vraiment à ce qui est 4 tarifs minimum. On a créé cette grille-là qui, donc, va de 25 à 50 $. 25, c'est accessible. 35, c'est réduit. 42, donc régulier, et 50, solidaire. Donc, pour les gens qui veulent aussi dire, ben moi, je peux donner un petit coup de main de plus qui va aider aussi des gens à venir. Et les résultats sont extrêmement surprenants. C'est-à-dire qu'on a des, on a un revenu moyen qui est pas mal le même que l'an dernier à pareille date. Donc, on a, tu sais, c'est pas, c'est un risque, mais calculé, puis qui permet vraiment de faire la différence. On reçoit beaucoup de messages de spectateurs qui nous disent, merci d'avoir fait ça. J'ai vu le spectacle parce que j'ai pu avoir un billet moins cher que ce que j'aurais payé normalement. Donc,
c'est vraiment quelque chose qu'on espère qu'il va être adopté ailleurs.
Oui, oui, puis je pense que c'est ça, c'est une idée qui, plus elle percole, plus elle existe dans les théâtres aussi, plus elle crée aussi, je pense, elle diversifie nos publics, elle les pluralise, puis c'est assez important. On a un public quand même au théâtre en général, à Montréal, qui est dans un certain créneau, aussi dans un certain âge, oui. Puis là, on voit aussi que ça contribue aussi à avoir un public qui...
Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, beaucoup de jeunes quand je suis allé, puis c'était plein.
Oui.
Carrément plein vendredi. Ouais, c'est dommage, on parlait de cette pièce d'homicide, elle s'est terminée maintenant.
Oui, ça s'est terminé samedi.
Mais vraiment, ceux qui ont manqué ça, vous avez vraiment manqué quelque chose. Puis j'espère que la prochaine fois, vous ne penserez pas que ça coûte trop cher.
Mais voilà, puis c'est aussi qu'on réalise que les gens prennent, vu que ce n'est pas un frein, ils achètent les billets plus tôt. Puis ça fait en sorte que les spectacles aussi se remplissent plus vite. Parce qu'on est dans une époque où est-ce que les gens vont attendre de voir un peu à la dernière minute, beaucoup. Ben, quand ça coûte 25, 35, puis tu dis, ah, je peux me le permettre, ben, OK, je prends la chance, donc je l'achète aussi en avance. Ouais. Donc ça aide aussi d'avoir des salles pleines quelque part.
Parce que je peux vous le dire, dans les théâtres, les grandes salles à Montréal, les billets de spectacle, c'est entre 60, c'est dans les tours de 60 $ là, facilement. Peut-être un petit peu moins dépendant des salles, mais quand même. Bon, on a manqué Homicide. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer?
La prochaine pièce, c'est la reprise de Insoutenable Longues Étreintes. Donc, c'est une des choses qu'on fait au théâtre aussi. On essaie de favoriser les reprises des spectacles qui ont bien fonctionné. Parce que, tu sais, créer un spectacle, c'est quand même toute une aventure. Puis souvent, malheureusement, nos spectacles, ils durent juste 3 semaines. Puis quelque part, après, ils disparaissent. Et donc, l'année dernière, Philippe Serre a créé ce spectacle, ce texte d'Ivan Viripayev, Insoutenable Longues Étreintes, avec Christine Beaulieu, Marc Beaupré, Simon Lacroix, Joanne Guérin. Et ça a été un énorme succès, autant critique que public. Donc, on s'est dit, il faut absolument trouver une façon de le reconvoquer sur la scène du Prospero. Donc, ils reviennent pour 2 semaines, à partir du 5 décembre. Puis, c'est un texte assez fulgurant entre Berlin et New York. C'est deux couples, quatre personnes qui tentent de, à la fois, vivre et de connecter avec une forme de spiritualité, mais à travers le sexe, la drogue. Puis, dans un humour, une écriture cinglante, mais c'est extrêmement drôle. On s'est dit que c'était un peu notre spectacle de Noël là, cette année. C'est notre casse-noisette à nous, Insoutenable Longues Étreintes.
Ah, peut-être qu'on pourrait espérer que Homicide, je ne sais pas si ça serait un spectacle de Noël l'année prochaine.
Non, mais... il faut trouver le bon contexte pour Homicide, mais c'est sûr qu'on réfléchit là, avec l'engouement qu'il y a eu dans les dernières semaines pour la
suite. Je pense que la critique a été quand même pas mal bonne.
Très bonne. Moi, j'ai trouvé le travail des critiques très, très solide parce qu'il y avait aussi toute la sensibilité de dire ben, c'est pas pour tous les publics, soyez prêts à ce que vous allez avoir. Donc, il y avait cette intelligence-là de nommer quand même, sans nommer, que c'était une pièce exigeante.
Je vois beaucoup de pièces qui s'en viennent. Je vais peut-être, puis on pourra faire le tour, mais j'aimerais t'envoyer sur La Mouette de Tchekhov, parce que ça, c'est vraiment différent cette fois-ci.
Oui, tout à fait. C'est une relecture complète. Donc, les deux spectacles de début de l'hiver, Membrane et La Mouette, sont des productions ou des coproductions. La Mouette, c'est une relecture, une réécriture, entre autres, de Guillaume Corbeil, l'auteur, mis en scène par Catherine Vidal. Donc, la pièce qu'on connaît bien de Tchekhov, le classique. Mais Catherine, à l'invitation du directeur du Centre national des arts, du Théâtre français, Mani Soleimanlou, elle s'est dit, j'ai envie de vraiment m'attaquer à ce texte-là et lui donner une forme plutôt contemporaine, en questionnant entre autres la question intergénérationnelle. Et donc, il y a toute une scène de Tréplève dans La Mouette qui est comme du théâtre dans le théâtre, où est-ce qu'il crée, c'est un plus jeune qui crée une pièce puis qui se dit, je veux faire exister ma parole à travers ça. Donc, elle a confié cette portion-là de la pièce à une jeune metteur en scène. Et donc, ça crée aussi ce dialogue-là quelque part entre les générations à même le processus. Donc, ça va être assez intéressant.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il ne faut pas manquer?
La Membrane, c'est une réécriture d'un roman, le premier roman de science-fiction queer en mandarin. Donc, c'est un roman taïwanais qui nous a été proposé par Cédric Delorme-Bouchard, prolifique concepteur d'éclairage et de scénographie, entre autres, mais qui fait de la mise en scène depuis plusieurs années. On a eu la chance d'avoir une reprise des employés l'an dernier. Et donc, il se frotte à ce texte-là qui a été adapté retravaillé par Rebecca Deraspe. Donc, ils ont vraiment créé une partition pour, avec Évelyne Lachelonnière, Larissa Corriveau, Inès Talbi, entre autres. Donc, une espèce de fable de science-fiction. Puis c'est assez rare qu'on voit de la science-fiction sur nos scènes, donc ça donne un objet assez singulier.
Ça, c'est après les fêtes, évidemment. C'est après les fêtes. Comme la mouette
tout
aussi.
Tout à fait, février, mars.
Et le magasin?
Le magasin, dernier objet de la saison sur la grande scène, qui est même chose, on a invité. Philippe aime beaucoup aussi lancer la perche à des concepteurs pour qu'ils imaginent des univers. Le magasin, c'est Odile Gamache, mm-hmm. qui est une scénographe à la base, qui a beaucoup collaboré avec Création dans la chambre, et qui a proposé cette idée-là d'une vitrine d'un magasin qui... Le dernier champ du cygne, dans le fond, d'une vitrine de magasin. Donc, c'est vraiment des objets qui s'activent. C'est comme un théâtre d'objets à échelle, à très grande échelle. Et elle active, elle manipule, dans le fond, les objets. Là. C'est en se promenant sur la Plaza Saint-Hubert qu'elle aime beaucoup et profondément, qu'elle s'est dit, il y a quelque chose à mettre en scène dans ces objets-là. Donc, c'est un spectacle qui n'est pas construit par rapport au texte, mais une forme de dramaturgie de l'objet. Voilà.
On voit vraiment que le théâtre Prospero, donc, aime bien... nous mettre au défi.
Tout à fait. Je pense que c'est un des mandats qu'on s'est donné de dire, ben, il existe tellement de formes théâtrales. Notre mandat, on dit souvent que c'est d'unir radical et populaire, c'est-à-dire mm-hmm. d'essayer de trouver des formes qui permettent vraiment de se confronter à d'autres univers, d'autres façons de faire, une forme d'audace, mais aussi de le rendre le plus accessible possible aussi au plus grand nombre. Donc...
Si on veut plus d'informations, on va sur le site du Théâtre Prospero.
Tout y est, bien sûr, la nouvelle grille de tarifs, bien sûr, mais aussi la programmation, les informations, surtout tous les spectacles de la salle principale et de la salle intime.
Vincent Drepentini, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à vous, c'est un plaisir.